racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sarah Hellermeyer, Fabrice Bousteau et Florian Guettet pour parler ensemble du monde nouveau de Charlotte Perriand, du monde selon Roger Baleine, du monde selon Laura Gozlan. Non, c'est pas le titre de son exposition, celle dont nous parlerons qui a lieu en ce moment à la galerie Valeria Cetraro. Puis quel monde est présenté à la Biennale d'Istanbul, c'est Fabrice Bousteau qui nous le révélera dans son coup de cœur. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau monde de Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton à Paris. L'exposition vient d'ouvrir, les commissaires sont nombreux. Jacques Barsac, Sébastien Cherhuet, Gladys Fabre, Sébastien Gocalp, Pernette Perriand-Barsac, assisté de Roger Herrera. La scénographie est signée Jean-François Baudin. Elle est née en 1903, elle est morte en 1999, on peut très littéralement dire que Charlotte Perriand a traversé le siècle. 20 ans après sa mort, 14 ans après une rétrospective au Centre Pompidou, la Fondation Louis Vuitton propose une immersion dans l'œuvre de Perriand par des reconstitutions dont on va parler avant la dispute et avant d'entendre dans un instant là quelques secondes de la voix de Charlotte Perriand. Un premier tour de table pour résumer votre impression, Sarah Hellermeyer.
Il y a une expo que j'ai beaucoup aimée, qui est très riche et bien articulée, qui permet d'aborder les différentes facettes du travail de Charlotte Perriand et d'en saisir toute la portée.
Florian Guettet.
Un bel hommage à une architecte moderne et à une artiste engagée, où pour une fois, et c'est tant mieux, Le Corbusier fait tapisserie.
Fabrice Bousteau.
Une balade enchanteresse dans le design, un rappel fabuleux de la place des femmes dans la construction intellectuelle de la société française notamment, et des œuvres extraordinaires.
On va développer tout ça, mais on va écouter cette archive dans laquelle Charlotte Perriand raconte sa première rencontre avec celui qui fait donc tapisserie, Le Corbusier. C'était en 1927, elle avait tout juste 24 ans.
Je n'avais pas de complexe et je n'étais pas timide non plus. Corbusier m'a reçu, j'avais mon carton modestement sous le bras, avec différents projets que je lui ai montrés. Corbusier m'a écouté, cette fille qui avait tout de suite l'air d'avoir 16 ans ou 18 ans. Puis il m'a dit, vous savez, on ne brode pas des coussins ici. Alors je me suis dit, on ne brode pas des coussins. Bon, alors je n'avais plus qu'à partir. Je lui ai dit, bien, écoutez, je fais une exposition. Si vous changez d'avis, vous me... voilà mon adresse. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Corbusier.
Cette archive de Charlotte Perriand et beaucoup d'autres choses, on peut la découvrir dans le documentaire de Stéphane Guez, Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre. C'est un film qui va être diffusé sur Arte le 13 octobre. Il sera également, il est déjà, je crois, ou dans quelques jours disponible en ligne sur Arte TV. Il y sera plusieurs semaines. Bon, comme ça, c'était bien de l'entendre aussi parler. Sarah Hellermeyer, parti pris de l'exposition, parcours un peu résumé synthétique avant de pouvoir rentrer dans la dispute.
Alors l'exposition, elle est immense parce qu'elle se déploie sur l'ensemble de la fondation, c'est-à-dire en tout 11 galeries qui sont quand même de taille plutôt importante. On y trouve des maquettes, des reconstitutions d'aménagements d'intérieur, des objets évidemment beaucoup, également beaucoup de peintures, de dessins, de céramiques et de tapisseries signées par ses amis collaborateurs comme Le Corbusier et Fernand Léger, mais également Calder, Miro ou Picasso. Donc elle se découpe en sections thématiques qui permettent d'aborder les différents axes du travail de Charlotte Perriand. Commençant par une section qui s'appelle « Construire la modernité » et où sont montrés notamment ces meubles devenus des icônes du design, comme par exemple sa célèbre chaise longue basculante conçue en 1928 avec des tubes d'acier chromé. Puis on passe dans une section qui s'appelle « Une femme engagée » où là on découvre notamment d'immenses photomontages à dimension sociopolitique qu'elle a conçus à la fin des années 30, au moment où le Front Populaire est au pouvoir en France. Puis on enchaîne avec une section qui s'intitule « Se ressourcer dans la nature » où sont montrés cette fois-ci les meubles dits de « formes libres » qui sont en bois, fabriqués de manière artisanale, avec des formes asymétriques et souples. Et ces meubles sont accompagnés de photos en noir et blanc, d'objets trouvés, réalisés par Charlotte Perriand, mais aussi de très nombreuses, voire peut-être un peu trop, je trouve, à ce moment-là, de sculptures et de peintures du Corbusier et de Fernand Léger. Puis on enchaîne avec le dialogue des cultures, avec des meubles et des intérieurs qu'elle a conçus lors de son séjour au Japon entre 1940 et 1946, comme par exemple sa chaise longue basculante qu'elle transpose en bambou. On enchaîne encore avec cette fois-ci la synthèse des arts, qui est une reconstitution de son exposition manifeste en 1955 à Tokyo, avec à nouveau des meubles qui traduisent des éléments de la culture japonaise dans un vocabulaire moderniste, et de très nombreuses tapisseries et tableaux à nouveau du Corbusier et de Fernand Léger. Et puis on continue avec la section 1, ça c'est assez long, hein, mais c'est toujours agréable à parcourir, la section qui s'appelle donc Un nouvel art de vivre, avec des reconstitutions des chambres étudiantes qu'elle a conçues pour la Maison de la Turquie et du Mexique au début des années 50, et pour lesquelles elle a inventé ses célèbres bibliothèques à joues, c'est-à-dire avec des cloisons colorées et coulissantes. Et puis il y a plusieurs galeries également qui sont dédiées à ses projets pour des galeries d'art, également pour le musée d'art moderne de la ville de Paris, mais aussi ses projets pour la montagne, comme avec des très grandes maquettes de la station de ski des Arcs, sur laquelle elle a travaillé pendant plus de 20 ans, hein, de 1967 à 1989. Et puis on termine, voilà, avec la maison de thé qu'elle a conçue en 1993 pour l'UNESCO, et sa maison au bord de l'eau qu'elle a imaginée en 1934 et qu'on trouve ici reconstituée à l'extérieur, au bas de la fontaine créée par Franck Guéry. Et en fait, ce sont là deux propositions qui synthétisent les principes qui sont au cœur de son travail et sur lesquels on pourra revenir.
Oui, évidemment, on va revenir. Merci pour cette balade express. On va prendre un peu plus de temps, mais c'est toujours utile de savoir comment, évidemment, une exposition est conçue. Alors, on voit qu'elle est profuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment on l'embrasse, comment on s'y promène, comment on s'y sent, Florian Guettet?
Peut-être en ne la considérant pas forcément comme une architecte, mais comme une autrice ou comme une créatrice. L'exposition fait vraiment la part belle au rapport entre architecture et art, c'est-à-dire que même pratiquement à présence égale, on a vraiment des réalisations de design, d'aménagement intérieur et d'architecture, et des tableaux ou des sculptures ou des tapisseries, comme si l'architecture en elle-même était une sorte de discipline un peu maison qui pouvait permettre la rencontre entre tous ces artistes et toutes ces disciplines. Parmi les artistes qu'on retrouve, évidemment Fernand Léger, parce que sa collaboration avec Charlotte Perriand a été étroite. Le Corbusier, évidemment, pour les mêmes raisons, mais aussi Alexander Calder, qui nous suit pratiquement pendant tout le parcours. Ou même Picasso, où on va retrouver d'ailleurs une version OM des Femmes d'Alger, sa série reprise du tableau de Delacroix. Et on la découvre elle-même créatrice, et dans cette position-là, Sarah a évoqué les photos montage. Faut savoir qu'elle a été aux Arts Déco la camarade de Dora Maar, et qu'avec dans cette sorte d'émulation, d'effervescence, des techniques, on découvre le photomontage, le photocollage, qui vont servir là effectivement l'engagement. Elle dénonce la précarité, mais elle dénonce déjà par exemple la pollution, ce qui est assez dans l'actualité intéressant à remarquer. Et puis on voit aussi dans le salon sur le Japon, quand elle part au Japon, elle fait faire une tapisserie avec un dessin d'enfant, comme pour là aussi valoriser cette sorte d'imagination un peu débridée, donc la création libre qui fait écho évidemment aux formes libres qu'elle promeut, en réponse au côté plus carré, plus presque totalitaire des fascismes en Europe ou des pouvoirs du pouvoir japonais.
Alors quand on vous écoute, on entend bien que c'est extrêmement riche, évidemment la carrière est longue, l'autrice est féconde, ça s'intéresse à beaucoup de champs, beaucoup de sujets de réflexion. Alors, du coup, Fabrice Bousteau, est-ce que le visiteur qui franchit dès aujourd'hui maintenant les portes de cette exposition, il peut se perdre, ou comment il est aidé, comment vous avez senti vous le parcours par rapport à faire passer quelque chose au-delà des œuvres qui sont là?
Moi, je trouve que c'est vraiment une exposition que je qualifierais d'audacieuse et intelligente. C'est étonnant d'ailleurs que la Fondation Vuitton consacre une exposition à Charlotte Perriand. On était habitué avec la Fondation Vuitton faisant des sortes de blockbusters avec des grands noms. Je pense que 80% du public ne connaît pas Charlotte Perriand.
Le chiffre doit être plus haut, je pense.
Doit être beaucoup plus
haut. Mais c'est un beau pari, du coup.
Donc c'est un très grand pari. Ce pari, ils l'ont intelligemment réalisé en présentant, il y a 200 pièces de Charlotte Perriand et 200 œuvres. C'est logique, c'est pas artificiel, parce que elle a vraiment eu beaucoup de collaborations avec les artistes, et puis il y a cette idée de la fusion des arts de manière globale. Je trouve que c'est une très belle leçon sur deux points très importants, ce qu'elle désigne et le rôle des femmes, des intellectuels, qu'elles soient d'ailleurs artistes, designers ou quelles qu'elles soient, lors du XXe siècle. Belle leçon de design parce que il y a un parti pris qui est absolument génial. La reconstitution d'ensembles qui ont été réalisés, c'est un mot qui est banni par les musées. De la même manière qu'on veut présenter toujours que des pièces originales et jamais des rééditions. Dans ces reconstitutions, le public peut aller s'asseoir sur les fauteuils. Ça n'existe dans aucun musée dans le monde. Et pourquoi on peut s'asseoir ? Parce que on a privilégié le fait de mettre des éditions. En mettant quelques pièces originales également. Je trouve ça absolument fabuleux. Et on est vraiment dans une balade très cinématographique de cette relation entre le rôle de cette femme, ses batailles. Rappelons que quand en 1925 Le Corbusier vient chez elle dans son petit atelier de Saint-Sulpice qu'elle a aménagé magnifiquement. Et c'est là où je ne rejoins pas Florian, c'est que ça parle moins d'architecture que d'architecture intérieure. Je pense que Charlotte Perriand est une fonctionnaliste, c'est-à-dire c'est ce design qui a pour objet d'améliorer la vie, de faciliter la vie, et que Charlotte Perriand, toute sa vie, ne parle que comment on est mieux dans sa vie, comment on est plus heureux, comment l'objet, comment la décoration facilite la vie, comment on optimise un espace. Et avec un engagement politique, parce que lorsque elle relie la cuisine avec le salon, c'est l'idée que la femme à qui, à l'époque, est dévolue le fait d'aller en cuisine, eh bien là, elle est dans la cuisine et dans le salon. Donc elle réapproprie l'espace privé et l'espace intellectuel. Voilà, il y a des moments de magie aussi dans cette exposition, parce que le pavillon sur l'eau, qui n'avait jamais été réalisé, qui est présenté sur les marches, la fontaine d'eau des marches de Guéry, mais franchement, faut le dire aux auditeurs, c'est un pur moment de magie. On rêverait d'avoir cette petite cabane là, au bord d'une rivière. C'est d'une beauté, d'une intelligence, d'une simplicité. Ce qui ressort aussi de cette exposition, c'est la simplicité, la sobriété du design de Charlotte Perriand.
Bon, beaucoup de choses dans cette intervention. Quelques réponses ou commentaires de Sarah Lermeyer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fabrice. Et c'est vrai que ce qui semble traverser le travail de Charlotte Perriand, c'est véritablement son engagement social. Et ça transparaît évidemment dans ses photomontages qu'elle réalise à la fin des années 30, comme La misère, la grande misère de Paris, où elle dénonce donc les conditions de vie insalubres de la classe ouvrière, mais aussi dans une table manifeste qu'elle crée en 1937, et dans laquelle elle intègre des gravures de Picasso, en l'occurrence des extraits du diptyque qui s'appelle Songe et mensonge de Franco. Mais son engagement, il transparaît également évidemment dans ses meubles et dans ses aménagements intérieurs. Où en fait elle met en œuvre, elle fait en sorte de mobiliser les moyens qui sont offerts par l'industrie pour les mettre au service du plus grand nombre. Et ça se retrouve aussi bien, on va dire, dans son aménagement de son petit atelier à Saint-Sulpice en 1927-1928, pour lequel elle conçoit notamment une table extensible en métal et un fauteuil pivotant, mais aussi dans les petites chambres étudiantes dont on a parlé pour la maison de la Turquie et du Mexique à la Cité internationale de Paris en 1950. C'est-à-dire que vraiment son souci, c'est le bien-être des individus dans leur quotidien, quels que soient les espaces dont ils disposent. Elle peut aussi bien concevoir en fait des logements sociaux, comme par exemple à la Cité radieuse, dont elle conçoit les aménagements intérieurs, justement, comme le disait Fabrice, en faisant aussi en sorte que la cuisine soit ouverte sur le salon et le séjour, ce qui en fait permet d'annuler la division sexuée classique et bourgeoise, effectivement, de l'espace domestique, avec d'un côté les femmes et de l'autre les hommes. Et puis par ailleurs, il y a une dimension, son engagement, il est également, comme l'a souligné Florian, écologique, puisqu'on voit qu'elle invente des architectures qui s'intègrent à l'environnement, comme par exemple la station de ski des Arcs, dont les logements suivent la déclivité du terrain pour s'y fondre, mais aussi des projets qui sont conçus pour laisser le moins de traces possible, avec des constructions démontables démontables et sans fondation, comme par exemple la maison au bord de l'eau, qui est ici reconstituée, et qui est composée d'éléments qui sont préfabriqués, mais également d'éléments trouvés sur place, comme des pierres, pour leur soubassement. Et puis, dans le même registre, il y a également le refuge Tonneau, qui a été conçu en 1938 et qui est une forme de, qui a une forme de cylindre en acier, en aluminium, et dans lequel peuvent loger 8 personnes, et dont les éléments, donc préfabriqués, peuvent être transportés à dos d'homme jusqu'au sommet des montagnes. Donc, ce qu'on voit ici, et ce qui me semble très important, c'est qu'il y a une véritable conscience écologique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire une conscience vraiment de la coexistence des règnes humains et non humains, sans hiérarchie, et qui se retrouve aussi dans les objets naturels et les photographies d'objets trouvés qu'elle met dans cet intérieur et qu'elle intègre sur le même plan avec des œuvres d'art et des objets décoratifs sans hiérarchie.
Florian.
Oui, et puis c'est vraiment une histoire de la modernité qui se déploie, avec aussi une faculté à ne pas se renfermer sur la scène française. C'est-à-dire qu'elle fait partie, malgré tout, voilà, de l'intelligentsia, de l'architecture de l'époque, avec le Corbusier et Jeanne Rey. Elle va ouvrir aussi, elle va co-diriger la galerie Steph Simon avec Jean Prouvé en 56. Mais elle va aussi connaître deux influences fortes, le Japon dont on a parlé plusieurs fois tout à l'heure, le Brésil également, puisque son mari va être muté en fait dans l'administration d'Air France, et puis elle va du coup refaire l'agence, elle va rencontrer Oscar Niemeyer, Lucio Costa. À l'époque, c'est pas si évident de faire ces liens diplomatiques là. Et puis le Japon, elle va aussi en retirer évidemment des influences très fortes qui vont marquer sa production, mais celle aussi des gens qui viendront après, puisqu'en fait on lui propose là-bas d'être conseiller au gouvernement pour pouvoir, on va dire, soigner un peu la réflexion autour de la production industrielle. Et puis on lui dit, oui, mais ici on a surtout du bois et du bambou, donc il faudra faire avec. Donc elle fait avec, et elle revient aussi avec dans ses valises des luminaires en papier washi de Noguchi, ou des peintures du peintre Domoto qui fait partie de Gutai, et qu'elle va exposer et diffuser même sur la scène française à son retour. Donc c'est aussi une passeuse, c'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui s'est fait sa place, parce qu'il faut rappeler qu'elle n'a pas fait d'école d'architecture, qu'elle a fait les arts décoratifs, qu'elle a appris sur le tas avec Le Corbusier et Jeanne Rey, mais qu'elle va imposer une sorte de profil aussi de ce qu'est l'architecte, on va dire, globalisé ou dans le monde global.
Fabrice Bousteau, à nouveau, sur Charlotte Perriand.
Ce qui m'a marqué aussi beaucoup dans cette exposition, c'est... j'ai jamais été tellement apprécié la peinture de Fernand Léger, et j'ai vu parmi les plus beaux Fernand Léger que j'ai vu de ma vie. Ça m'a réhabilité, c'est-à-dire que l'exposition Chapelle réhabilite Fernand Léger. Par contre, je pense qu'elle fait un peu de mal à la peinture de Le Corbusier, parce que on se rend compte que Le Corbusier n'était pas un grand peintre. J'ai été parfois...
On le savait déjà, non ?
On le savait déjà.
Et l'expo à Beaubourg, ça a renseigné quand même largement là-dessus.
Voilà, et puis peut-être, si je devais formuler une critique supplémentaire, j'ai toujours eu un doute. Je suis un amoureux de la chaise LC4, pour que les auditeurs sachent que c'est que la chaise LC4, c'est cette chaise qui est une chaise longue, qui est sur une structure tubulaire et qui permet de qui est d'ailleurs très 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 avant-gardiste, puisque elle permet de se relaxer presque comme du yoga, d'avoir les jambes très haut et donc d'avoir le sang qui circule parfaitement, ou alors au contraire d'avoir une position de lecture, ou alors donc elle a une position à géométrie variable. Et cette chaise, elle est constituée normalement d'un matelas qui est sur ces structures tubulaires. Or, le premier modèle qui était fait de la chaise LC4, il n'était pas un matelas, c'était du cuir qui était tiré. Elle est signée par Le Corbusier, Jeanne Rey et Charlotte Perriand. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas uniquement une création de Charlotte Perriand, et que comme la tradition le voulait à l'époque dans ses studios, et comme ça existe toujours dans les studios,
on signe à plusieurs.
Comme Apple n'est pas signé, a été signé tardivement John Ive, et pas par d'autres designers, mais qu'en fait c'est une chaise Charlotte Perriand et pas une chaise Perriand, Jeanne Rey et Le Corbusier. Et je pense que l'histoire devrait nous entraîner à réhabiliter également la signature d'auteur de ce type.
pour finir, ça.
Oui. Alors juste un point par rapport aux relations entre Charlotte Perrin et le Japon, parce que je pense qu'il faut quand même signaler qu'il s'agit moins, à mon sens, en tout cas, il me semble, d'une inspiration japonaise que d'une correspondance en fait entre le vocabulaire moderniste qui est celui de Charlotte Perrin et les principes de l'architecture traditionnelle nippone, qui partagent des principes communs, hein, qui sont le plan libre, des espaces fluides et modulables avec des cloisons coulissantes. Et puis une chose aussi, moi, que j'ai trouvé remarquable dans cette exposition, c'est qu'elle permet, je trouve, de sortir d'une vision réductrice de la modernité, qui en fait un synonyme de sécheresse, de rationalisme froid, voire de déshumanisation. Puisqu'au contraire, ce qu'on voit dans les productions de Charlotte Perrin, ce n'est pas la mise en œuvre d'une rationalité abstraite et prétendument universelle, mais au contraire, c'est la prise en compte pragmatique et empirique du bien-être des individus, toujours singuliers dans leur quotidien. Non pas compris comme des entités statiques, mais comme des corps en mouvement, avec des gestes et des déplacements spécifiques. Et cela le prend en compte justement en créant des espaces ouverts, fluides, modulables, grâce justement à ces bibliothèques, par exemple, à cloisons coulissantes. Et puis ça se retrouve aussi, par exemple, dans ces meubles dits formes libres, qu'elles conçoivent dans les années 30, qui ont des formes asymétriques et qui, contrairement aux apparences, sont éminemment fonctionnelles et ergonomiques, comme par exemple le bureau Boomerang, qui a été conçu pour Jean-Richard Bloch, le directeur du journal communiste Ce Soir, et qui, comme son nom l'indique, a une forme de boomerang, et autour de laquelle peuvent se placer ses interlocuteurs, auxquels il peut s'adresser aisément sur son fauteuil pivotant.
Ouais, on aimerait bien avoir ce type de mobilier dans nos espaces de travail. Bon, c'est pas pour tout de suite. Tout de suite, c'est l'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perrin. C'est à la Fondation Louis Vuitton et c'est jusqu'au 24 février. Un catalogue est coédité par la Fondation Egalima. Et puis, il y a pas mal d'actualités livresques autour de cette exposition. Il y a le livre de Virginie Mouza et Devant moi la liberté, journal imaginaire de Charlotte Perrin chez Flammarion. La BD de Charles Berberian, Charles Perrin au Japon, aux éditions du Chêne. Et puis il y a aussi une exposition à la Galerie Downtown qui s'appelle Living with Charlotte Perrin, qui est l'exposition à la Galerie Downtown, rue de Seine. Et ça, c'est jusqu'au 2 novembre. On va parler dans cette dispute, dans les minutes qui viennent, de Roger Balen, de Laura Gozlan et de la Biennale d'Istanbul.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
On poursuit cette dispute avec Le Monde, selon Roger Balen. C'est à la Halle Saint-Pierre, la commissaire d'exposition est Martine Luzardi. C'est la première grande rétrospective de cet artiste en France, avec également des installations inédites produites sur le lieu. On va en parler. Il faudrait peut-être quand même, dans un premier temps, Fabrice Bousteau, situer Roger Balen, donner quelques images aux éditeurs, parce que c'est pas le nom le plus connu sur la scène de l'art.
Oui, Roger Balen, on pourrait le considérer que c'est un photographe, ou plutôt un artiste photographe américain, blanc, c'est important, de 70 ans.
Comment ? Sud-africain.
Américain, ah bon, blanc.
Oui, en Afrique du Sud.
Je crois qu'il était sud-africain, moi.
Qui est né à New York.
D'accord.
Mais qui a passé l'essentiel de sa vie à Johannesburg, en Afrique du Sud.
D'accord.
Où il a été très jeune suite à un voyage qui a duré 5 ans quand il avait 20 ans. Jusqu'en 1995, Roger Balen exerçait l'activité de photographe, mais presque en amateur, puisqu'il exerçait pour vivre le métier de géologue. En 1995, il est invité au Festival de la photographie d'Arles. C'est la deuxième fois qu'il a une exposition dans sa vie, en 1995, et ses images sont tellement fortes qu'elles créent une sorte de... Elles éclatent à la face du monde, tellement les faces, justement, qu'il présente sont fortes. Alors, quel est son travail? En quoi son travail, justement, est très fort? Il y a deux périodes. De 1980 à 1995, c'est une sorte de travail d'investigation de l'Afrique du Sud, pauvre, rurale, profondément rurale, et blanche, dans une période d'apartheid notamment. Mais ce n'est pas du tout une photographie documentaire. C'est une photographie qu'on pourrait dire émotionnelle, introspective, sur le mental de l'individu. À partir de 1995, donc on voit plutôt les profondeurs de l'âme et on ne voit pas le contexte social qui se déroule à ce moment-là en Afrique du Sud. À partir de 1995, Balen transforme son rapport à la photographie en faisant des expérimentations visuelles assez hallucinantes, où en fait il mélange la réalité et la fiction, où il met en scène des situations, où ses portraits d'individus toujours en noir et blanc, sauf dans la période la plus récente, sont recouverts de graffitis, sont mélangés avec des bestiaires un peu phobiques, improbables, mélangeant des serpents, des rats, avec des objets qui ont l'air abandonnés, qui créent une atmosphère anxiogène, dérangée, qui mélange sans cesse la cruauté et l'absurdité. On est dans un univers à part, unique, qui peut faire peur, déranger et à la fois rire. Et quand on est dans cette exposition, on est transformé.
Bon, alors on va voir comment ça vous a transformé, mais comme ça on a vraiment une idée bien plus précise maintenant pour les auditrices et auditeurs de qui on parle. Sur cette exposition, la première impression, Sarah Ellermeyer.
Alors une exposition que j'ai absolument détestée, et le monde de Roger Balaine est un monde dérangeant, mais pas pour les raisons qu'il imagine.
Florian Guetté.
Une expo à deux vitesses, un peu schizoïde, que j'ai trouvé plus convaincante dans le réalisme que dans le théâtral.
Bon, Fabrice Boustourne, la vie, vous l'avez quasiment donnée. Hein, vous l'avez adoré, cette exposition.
Moi, j'ai absolument adoré cette exposition. Je pense que c'est une exposition, d'ailleurs, il faut le préciser, qui va durer très longtemps.
Oui, oui. À la Halle Saint-Pierre, c'est longtemps, c'est jusqu'au 31 juillet 2020.
Voilà, qu'il faut voir et revoir. Et d'ailleurs, parenthèse, qui est en deux parties.
Oh, oui.
Une partie non chronologique de l'œuvre et une deuxième partie qui est une installation dingue.
Bon, alors pour rentrer encore mieux dans ce monde de Roger Balaine et avant d'ouvrir vraiment la dispute, un extrait d'une de ses vidéos, Theatre of the Mind, vidéo tournée au Sydney College of the Art en 2016.
See this word here. This is the key word. Begins with an M and ends with a D. It is called mind. How do you get to the mind? Who is the mind? Does the mind trick you? Is the mind somebody else? Those are the key questions that you gotta let haunt you. I came to this place to give a talk. They did not like it. They grabbed me. We walked and walked and walked. I did not know where I was going. There were voices everywhere. People screaming and moaning. This is what I heard.
This is no one forget me. I hear the angels. They're talking to me. They're talking to me. Can you hear them? Can you hear them? I want to get out.
Voilà un peu du monde sonore de Roger Balaine avant de parler de cette exposition. Le monde, selon Roger Balaine, à la Halle Saint-Pierre. Alors, on a compris que Fabrice va en dire grand bien, Sarah grand mal. On va commencer par la voix médiane, celle de Florian Guetté.
La sagesse du milieu.
C'est vous qui le dites.
Autoproclamé. Écoutez, on commence au premier étage avec donc l'exposition plutôt des photos, en gros. Hein, il y a quelques objets, quelques dessins également, mais la plus grande partie, c'est les photos. Alors, on pourrait croire comme ça, un premier coup d'œil, que c'est entre Joel Peter Vidkin et Tim Burton, et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une sorte d'œuvre assez creepy.
Creepy, donc, traduction française. Vous avez à force d'employer les mots anglais. Vous perdez votre vocabulaire, Florian.
Ouais.
Qui vous fait quoi? Frissonner? Ouais, qui vous inquiète?
Une sorte d'étrangeté qui m'est pas forcément très à l'aise.
Bon.
Donc, on le connaissait, enfin, moi je le connaissais en tout cas pour Outland, qui était cette série sur sorte d'Afrikaner. En situation de déclassement, on va dire, après l'apartheid, qui perdaient leurs privilèges, et plutôt que montrer la misère sociale de tout ça, comme pouvait le faire par exemple Walker Evans, lui va plutôt parler de la misère psychologique, et ça m'intéressait assez, puisque c'est traité sans complaisance, ni vraiment misérabilisme, et on sent qu'il y a vraiment une sorte d'affection assez sincère pour ces modèles. Donc moi, cette partie m'a plutôt plu. En fait, je le vois plutôt, effectivement, comme quelque chose de documentaire, moi, pour moi, parce que, effectivement, il y a toujours une théâtralité latente, on voit qu'il y a que ça s'inscrit quand même dans une sorte de domesticité engraissée, sale, abîmée. On a l'impression comme ça qu'il y a eu un accident qui est passé, puis qu'on a laissé les débris sur place, quoi. Mais en fait, derrière, il y a quelque chose d'une sorte d'absurdité extrêmement réaliste, en fait. Et il le dit lui-même, il dit finalement l'absurde, ça va pas se créer. L'absurdité, c'est l'absurdité du monde, et moi je peux la souligner, la faire sortir, etc. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Donc effectivement, on a des mises en scène qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont finalement toujours rattachées, ancrées très très solidement dans l'histoire et dans la vie. Par exemple, le motif du fil, on va retrouver de partout des fils. Alors ça va être des cintres, des cordes, des barbelés, des bandes métalliques, des fils électriques. Alors ils vont pendre, ils vont étrangler, ils vont relier, ils vont tracter, ils vont empiéter, ils vont prendre au piège. Mais tous ces fils, ce sont à la fois les fils tortueux, on va dire, de la vie, mais aussi ça rappelle les cordes pendues au moment de l'apartheid. Et donc faut toujours le voir comme ça, sous cet aspect-là. Ça se donne sous une apparence plutôt artificielle, mais en fait c'est clairement très enraciné dans le Véras.
Alors, avant de descendre au sous-sol, restons un instant sur le premier niveau et sur les photographies, parce que je pense que c'est pas inintéressant de séparer quand même les deux, parce que ce sont deux registres.
Oui, il y a deux expositions
très différents. Pas pour Sarah et Lermeyer, mais restez sur les photos
sur
pour l'instant, Sarah.
C'est le principe, il me semble, mais effectivement, ce dont parlent Fabrice et Florian, c'est qu'il y a une ambiguïté dans les premières photos de Roger Baleine, qui disparaît complètement au fil des ans, puisqu'on voit qu'il ne s'agit pas de photos documentaires, mais qu'il s'agit très clairement de mise en scène, ou comme il le nomme lui-même, des théâtres de l'âme, du chaos et de l'absurde. Donc ce qui apparaît de
plus
en plus... Absolument. Ce qui apparaît de plus en plus nettement, c'est qu'ils cherchent non pas à rendre visibles des personnes invisibilisées, ce qui serait un geste fondamentalement politique, mais à rendre visible, à travers elles et leur environnement, un espace mental, archétypal, hein, c'est-à-dire, je reprends ces mots, le subconscient dans sa dimension violente et chaotique. Donc, et c'est là tout le problème, hein, parce que puisque cette assimilation entre misère sociale et subconscient, eh bien, le conduit à transformer les individus qu'il rencontre en archétypes de l'inconscient pulsionnel et chaotique. Cela est déjà présent dans ces premières photos des années 80, 90 et 2000, mais il semblait quand même encore à l'époque laisser respirer et exister ces sujets, en les laissant par exemple justement, comme le disait Florian, intervenir dans la composition de l'image, ce qui faisait que parfois au cœur du plus grand dénuement, eh bien, il pouvait y avoir une forme de grâce qui relevait de la singularité des sujets photographiés, comme par exemple Eugène on the phone, qui montre un jeune garçon couché sur un canapé, qui tient d'une main un téléphone et de l'autre la queue d'un chat, avec un regard étrange, absent et pensif en même temps. Mais au fur et à mesure que les années passent, eh bien, Baleine, il surdétermine ces images, il en rajoute des couches, avec toujours plus d'éléments de décor, des vieux mannequins en bas-kélite cassés, des animaux, des rats, et toujours plus de dessins qui recouvrent les murs. Et à ce moment-là, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il transforme les individus qu'il rencontre en matériaux humains, qui valent au même titre que les objets et les décors dans lesquels ils sont placés, dans lesquels d'ailleurs ils se fondent littéralement, tout en étant transformés en caricatures d'eux-mêmes. Donc le problème ici, ce qui est dérangeant, c'est pas l'inconscient, face auquel il nous confronterait. C'est absolument balourd, hein, même cette mise en scène de l'inconscient. Mais le problème, c'est que l'individu est nié, en fait, dans sa singularité qui est normalement irréductible, pour devenir une incarnation générique, un symbole comme ça, des profondeurs, troubles de la psyché humaine, assimilée à la misère sociale.
Et ça vous plaît pas. Fabrice Bousteau, que répondre à cette... viser comme ça, d'objectiver les individus dans les photographies de Roger Baleine.
Deux points d'introduction. C'est Roger Baleine qui a voulu...
On va vite être sur la conclusion.
Voilà. C'est Roger Baleine qui a voulu faire cette exposition à l'Halle Saint-Pierre. C'est la plus grande rétrospective qu'il ait jamais faite au monde. Mmh. Il a choisi l'Halle Saint-Pierre parce que, à cause de son attachement profond à l'art brut. Ce n'est pas un artiste d'art brut, mais on pourrait dire qu'il a utilisé presque des ficelles esthétiques de l'art brut.
Il le singe.
Comment ?
Il le singe, l'art
brut. Oui, c'est deux versions de la même phrase, mais avec
Il a utilisé des principes d'art brut pour jouer profondément avec son inconscient. Il ne faut pas oublier que Baleine, c'est aussi quelqu'un qui est diplômé de psychanalyse. Donc la psychanalyse a toujours, depuis son très jeune âge de Berkeley, l'a toujours obsédé. Sa volonté n'est absolument pas, il n'a jamais été, jamais dans sa vie, de faire un travail documentaire. L'important pour lui, c'est d'arriver sans doute à comprendre l'âme, l'individu, et d'en refaire sortir une œuvre plastique. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à quelque chose qui ne documente pas, qui ne décrit pas, et qui crée des sensations, qui perturbe, qui crée des malaises. C'est pas une exposition du tout facile. C'est une exposition qui, en parallèle, peut créer des rires. Et on est vraiment là, son obsession à Baleine, d'ailleurs en discutant avec le libraire, c'est Beckett. Parce que on le comprend bien, c'est comment on peut mettre le mal en scène par l'absurdité. Et effectivement, cette exposition et le travail de Baleine, il révèle la question du mal, de la barbarie qui est en chaque être humain, de la douleur, créer avec des éléments d'absurdité. Et ça, pour ajouter juste une phrase, c'est quand même assez étonnant aussi. Il y a deux grands artistes, notamment d'Afrique du Sud, c'est William Kentridge et Roger Bellen, qui n'est pas d'Afrique du Sud, qui est né américain. Et les deux utilisent une forme de théâtre de cruauté pour faire comprendre le monde. Et ça m'interroge beaucoup, cette question de la théâtralisation de l'œuvre, où maintenant il se met même en scène lui-même. Je pense que ça ouvre des perspectives de ce que c'est que la dimension plastique, une nouvelle dimension plastique de la photographie.
C'est vrai qu'on est obligé de penser à William Kentridge, enfin, quand on connaît son travail, qui est quand même largement répandu, alors pas pour le meilleur. Mais on va faire un court tour de table sur les installations au sous-sol, vu l'heure qu'il est. Florian Guettet.
Moi, je trouvais que c'était un train fantôme un peu comique en bas, donc ça m'a pas fait le même trouble que les premières installations, enfin que les premières photographies. C'est vrai qu'il y a un côté misère sociale version train fantôme qui est pas très agréable en fait à interroger. La précarité psychologique devient spectacle dans ces films, ça c'est très clair. Et puis il y a une sorte de mise à distance dans ces installations qui peuvent relever du comique. Alors, on a un chérubin qui a perdu son aile et qui essaie de la récupérer. Qui peuvent être très vite régressifs, on a une sorcière comme ça au tricot, ou gaguesque, on a une mariée qui se noie. En fait, ce qui me paraissait intéressant dans les photos, c'est-à-dire ce truc un peu sur le fil où on savait pas, est-ce qu'on peut rire d'un enfant qui est en train d'être échoué au sol pendant que sa mère est en train de caresser un rat? Est-ce qu'on peut en rire? Oui, mais en bas, on a même plus ce choix-là de se tenir un peu sur le fil.
Sur les installations, Fabrice?
Donc, faut imaginer en bas, c'est une sorte d'installation qui ressemble à un appartement avec des canapés défoncés, des poupées avec des têtes d'animaux, des images. C'est en fait, c'est une sorte de
théâtre. C'est pas Charlotte Perriand, hein.
Non.
Là, c'est pas pour bien vivre, là.
C'est le mot, j'allais dire, c'est un théâtre d'ombre et de lumière. D'ailleurs, à un moment donné, on voit sur un écran, des personnages apparaître, et c'est toujours ce rapport entre l'ombre et la lumière. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un film qui est absolument génial, où on voit comment Bellen travaille, comment il met en scène certains de ses personnages. Il faut imaginer que Bellen, il vit avec des milliers et des milliers d'animaux chez lui. Cet univers, c'est un univers mental, c'est l'univers d'un metteur en scène de la cruauté et de la barbarie humaine.
Bon,
Sarah et la Maya. Sur les installations, donc,
oui, je viens vers vous.
Bah, il développe.
Soyez pas agressif comme ça, c'est Bellen qui vous fait ça, Sarah. Ah oui, c'est pas possible.
Donc, mais de la même manière que dans ses photos, il développe une esthétique surréalisante, extrêmement datée et kitsch, hein, avec des assemblages d'objets improbables très appuyés, comme par exemple un mannequin de femme en bas-kilt renversé sur un lit, et dont, avec un renard empaillé qui lui renifle derrière. Hein, voilà, par exemple. Donc, tout cela voudrait être très dérangeant, troublant, et nous donner donc accès, comme le dit Fabrice, au théâtre de l'inconscient. Et en réalité, à mon sens, ça ne produit pas grand-chose, puisque ce sont en fait des images toutes faites hein, de la bizarrerie et de l'étrange, extrêmement léchées et lourdes. Et par ailleurs, dernier point par rapport à Samuel Beckett, effectivement, Roger Bellen ne cesse, et c'est les commentateurs de faire référence à Samuel Beckett, on trouve chez Roger Bellen des espaces vides, avec des personnages, dans des corps fragmentés, des situations absurdes, hein, de la même manière que chez Samuel Beckett. Mais là où Beckett, en fait, il met en crise le langage, il le fait bégayer, il invente une langue, lui, par contre, Roger Bellen ne fait que reproduire des formules toutes faites, de l'absurde, justement, et avec un sérieux, une prétention qu'on ne trouve pas chez Beckett, puisque, excusez-moi, mais dans le catalogue, on voit que Roger Bellen parle de lui à la troisième personne dans ses entretiens, en disant Roger Bellen a fait ceci, Roger Bellen a fait cela. Il a même inventé un terme qu'il appelait baleinesque pour qualifier son esthétique et celle des individus qui pourraient s'en inspirer.
Voilà. Et puis il est au centre de l'exposition. Ouais. Bah.
Ce qui est propre d'un artiste, de parfois de se mettre à la troisième personne et de créer un personnage.
De surplomber son sujet.
Allez voir, vous avez le temps, hein, jusqu'au 31 juillet 2020, c'est le mieux d'aller voir par soi-même à la Halle Saint-Pierre cette exposition Le Monde selon Roger Bellen. C'est l'heure du coup de cœur de Fabrice Bousteau qui va nous dire quelques mots de la Biennale d'Istanbul qui se tient dans cette ville jusqu'au 10 novembre. Commissaire Nicolas Bourriaud.
Commissaire Nicolas Bourriaud, 16e Biennale qui s'est ouverte dans un contexte quand même très particulier puisque la censure développée par le président Erdogan pour les milieux culturels est flagrante et est très présente depuis 4 ans, quand on interroge les artistes, les galeristes et tout le monde. Cette biennale, quand même, cette importance s'est ouverte avec un sentiment de renouveau, puisque a été inaugurée en même temps, d'une part, une foire d'art contemporain, et d'autre part, un bâtiment, un magnifique bâtiment de la collection du plus grand collectionneur turc, Koç, bâtiment qui s'appelle Arter et qui est aussi un des principaux financiers de la biennale et qui a ouvert son bâtiment, ce qui est important à dire, dans le quartier le plus populaire et sans doute un des quartiers les plus populaires d'Istanbul, pour justement montrer que la culture pouvait sauver entre guillemets Istanbul. Biennale qui est sur le même thème que celle de la biennale de Lyon. La question anthropocène.
Avec plus de bonheur.
Avec beaucoup plus de bonheur. Son titre, c'est le 7e continent. Ça évoque évidemment les gigantesques déchets plastiques sur la mer qui constituent un continent même. Mais dans l'idée de Nicolas Bourriaud, et son propos est très tenu, c'est ce 7e continent qu'on a aussi de plus en plus dans la tête tous, cette conscience écologique qui arrive. C'est un parcours qui se fait en 3 lieux. Un premier lieu qui est le musée le Pera Museum. Le deuxième lieu qui est un nouveau bâtiment qui va devenir un nouveau musée d'art moderne et contemporain d'Istanbul, et une île. Le parcours, il est extrêmement tenu. Il faut rappeler que Nicolas Bourriaud, c'est sans doute un des auteurs d'art contemporain, des critiques les plus connus dans le monde. Ça n'a pas toujours été un des meilleurs commissaires d'exposition à mon sens. C'est aussi le directeur de la Panacée à Montpellier. Pardonnez-moi,
le MoCo,
qui rassemble la maison des collections, le musée des collections, un centre d'art contemporain, etc.
Et l'école d'art.
Et là, on se retrouve, contrairement à la Biennale de Lyon, qui a voulu jouer le jeunisme absolu, avec des artistes de toute génération, de tout âge, et avec parfois des découvertes absolument mais dingues, comme par exemple un artiste qui s'appelle Norman Daly, qui est absolument un inconnu total, qui était professeur à la Cornell University dans les années 70 et qui a créé une civilisation fictionnelle. C'est-à-dire qu'on arrive dans un Pera Museum et à un moment donné, on se fait tous piéger d'ailleurs, on arrive, on voit, on croit que ça fait partie du musée permanent, on voit des objets archéologiques, on voit des peintures, le type a travaillé toute sa vie à inventer une civilisation fictionnelle, c'est absolument d'une force incroyable. Ensuite, partons du Pera Museum pour aller dans ce futur musée d'art moderne et contemporain, où chaque artiste a sa salle. Il y en a une cinquantaine. Nicolas Bourriaud se fait tellement un fil tenu que il demande de suivre 1, 2, 3, 4, 5. On suit l'exposition et il y a des moments pareil, merveilleux, mais est-ce que je suis encore trop long?
Ben ouais.
Est-ce que je peux citer quand même au moins un artiste turc absolument fabuleux, et on voit où le propos est tenu sur la question de l'écologie, de l'anthropocène, Ozan Atalan, qui on voit une œuvre, on voit sur une stèle de béton un squelette blanchi d'un buffle d'eau. Je ne sais pas ce que c'était qu'un buffle d'eau, mais un buffle d'eau, c'est cet animal qui vit dans l'eau. Et juste à côté, un film qui montre que c'est une espèce qui est éteinte.
Ah d'accord, c'est l'extinction.
Extinction par les travaux du nouvel aéroport d'Istanbul, qui est le deuxième plus grand aéroport du monde et qui vient à peine d'être inauguré. Vraiment, il y a des magnifiques surprises. Je conseille à tout le monde, ceux qui peuvent aller à Istanbul, d'aller voir cette biennale, qui vraiment fait du bien intellectuellement, contrairement à celle toujours extrêmement décevante de Lyon.
Biennale d'Istanbul jusqu'au 10 novembre.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier sujet à disputer, l'exposition de Laura Gozlan à la galerie Valeria Cetraro, le titre Youth Enhancement System, à savoir le nom d'une marque de cosmétiques américaine qui nous promet un rajeunissement à peu près garanti. Enfin, ça, c'est ce que la marque prétend. Avant de développer, peut-être Florian Guettet, nous dire à nos auditrices et auditeurs ce qu'on peut voir très concrètement à la galerie Valeria Cetraro.
Laura Gozlan, elle est habituée des utopies scientifiques, sauf qu'ici, elle travaille sur un procédé beaucoup plus narratif qu'expérimental. Alors c'est organisé autour d'une fiction qui porte le nom de l'exposition, une fiction dystopique déployée en 3 vidéos, qui met en scène une ménagère bourgeoise, qui elle interprète elle-même, qui cherche les moyens d'une cure anti-âge, dans une séance entre le rituel chamanique et l'expérimentation laboratoire, entre quelque part entre la nécromancie et la cryogénie. Alors cette femme androgyne, qui s'appelle Mum, elle est monstrueuse, elle est queer, elle est transhumaine, elle a la voix vocodée, donc très masculine, elle fume les restes d'une momie égyptienne.
Ouais. Dans chaque matin au réveil, c'est
voilà,
très bon.
Exactement. Dans une pipe à eau qui est en fait un urinal d'hôpital. Et le tout est disposé à travers 3 écrans dans l'espace. L'espace est moquetté, ce qui installe une sorte de flottement pendant la visite. Et puis de grands voilages jaunes qui sont assez élégants, qui organisent la déambulation au milieu d'un jeu de voilés dévoilés, qui permet de disséminer quelques sculptures en cire et en plâtre qui reprennent des éléments de la vidéo. Alors ça peut être des membres de momies, des ustensiles pour son rituel ou du matériel de consommation de drogue. Tout ça pour ouvrir sur un hors-champ, une sorte d'obscène sur les coulisses ou l'envers du décor de la fiction. Et on entend aussi toute l'ambiance musicale des 3 vidéos, puisque 2 vidéos sur 3 ont le son diffusé dans la pièce. Ce sont des nappes ponctuées de percussions très très lentes, très solennelles. Voilà, une sorte d'univers assez posé, mais qui reste évidemment inquiétant.
Un petit peu de cet univers avec le son d'une de ces vidéos.
I had the strangest dream last night. I was flying above the housing project. And I saw these 2 cars. One was red and one was black. They were fighting each other, crashing against themselves, bumping, turning around, crashing again. These 2 cars were fighting for their lives. It lasted forever.
Laura Gozlan à la galerie Valeria Cetraro, c'est rue Caffarelli, dans le 3e à Paris. Tour de table concernant cette exposition, Sarah Hellermeyer.
Bien, on nous propose là une immersion dans l'utopie décadente de la quête d'immortalité, qui est à la fois inquiétante et burlesque.
Fabrice Mousteau.
C'est un lifting qui rend très vieux, et comme souvent les liftings, et voilà.
Bon, vous développerez, parce qu'on n'est pas sûr de savoir si vous aimez ou pas encore. Et Florian Guettet.
Bah, moi, je trouvais que c'était une dystopie délicieusement obscène.
Sarah, et la meilleure, vous développez votre sentiment sur cette exposition?
Oui, bah, ce qu'on voit, comme l'a décrit Florian dans cette exposition, c'est la réunion de différents éléments qui renvoient par exemple au domaine de la cosmétique et des cures anti-vieillissement, avec cette ambiance à la lisière de la clinique chic et de l'alcôve créée par les voiles jaunes qui structurent l'espace et la moquette grise qui nous accueille. Il y a des éléments également qui renvoient au romantisme noir avec ces vampires auxquels ressemble vraiment le personnage joué par...
Les vampires de Jim Jarmusch.
Laura Gozlan, voilà. Ouais. Et puis il y a également des éléments donc qui renvoient à des pratiques antiques de momification, comme les fragments de corps en cire filiformes, verdâtres et bruns recouverts d'aluminium, comme des sortes de cadavres qui sont fixés à des barres de métal comme le seraient des prothèses à la Frankenstein. Et ce que en condensant en fait tous ces éléments dans cette exposition et dans ces œuvres, ce que fait Laura Gozlan et ce qui me semble ce qui est plutôt moi je trouve intéressant, c'est le fait de montrer que la conjuration de la mort et la quête d'immortalité eh bien sont pas des phénomènes totalement récent, parce qu'au contraire, ils traversent les âges et les époques, avec néanmoins des variations très importantes, évidemment, dans leurs enjeux sociaux et politiques. Et c'est ce qu'on découvre notamment dans les références qui nourrissent son travail, comme par exemple le cosmisme, que je ne connaissais pas, et qui est un mouvement politique russe de la fin du 19e siècle, et qui considérait l'immortalité comme une condition indispensable pour mener à bien le projet communiste. Il y a également des références au système de renforcement de la jeunesse pour super milliardaires, qui existe bel et bien, qui ne relève pas de la science-fiction, comme la transfusion de sang d'enfants, la cryogénisation dont a parlé Florian, mais également le téléchargement de IAM dans un nouveau corps. Et puis, il y a également des références à un certain Ray Kurzweil, qui est un des papes du transhumanisme et qui consiste à promouvoir ce mouvement, l'augmentation des capacités humaines à l'aide des biotechnologies, mais évidemment à destination de ceux qui pourront se le payer. Donc, ce qu'on voit à travers ces œuvres,
ça ruissellera après.
Oui. Voilà. Mais c'est que la quête d'immortalité, elle peut aussi bien être investie par d'un projet utopique collectif, hein, pour le bien commun, que portée par une infime frange de la population, c'est-à-dire les 0,01% de privilégiés, de classes dirigeantes, qui, en fait, tout en promouvant des changements sociétaux, et bien se reproduit elle-même comme des vampires. Et c'est ce qu'incarne parfaitement le personnage joué par Laura Gosselin, c'est-à-dire une femme issue de la bourgeoisie qui ressemble à un vampire ou un zombie, et qui semble s'accrocher désespérément à la vie et maintenir sa position sociale en dépit de sa décrépitude évidente et flagrante.
Alors, lifting pro ou anti-lifting, Fabrice Bousteau ? Je parle de Laura Gosselin à l'heure actuelle.
Écoutez, moi j'ai apprécié des travaux antérieurs de Laura Gosselin, et là je me retrouve dans la situation du critique visiteur, où je me suis profondément ennuyé dans cette exposition, qui est toute petite d'ailleurs, hein, c'est une petite galerie, donc il faut imaginer quand même qu'en gros on voit des rideaux jaunes, 4-5 sculptures d'espèces de morceaux de fragments d'encore, on apprend que c'est le pied de l'artiste, et puis le tubulaire, et puis après trois écrans vidéo petits, trop petit d'ailleurs pour voir le travail filmique. Je préfère sincèrement, moi, à titre personnel, effectivement, il y a beaucoup d'informations assez intéressantes dans ce film, mais je préfère en fait lire un article dans Le Monde ou dans Beaux-Arts Magazine, de préférence, qui me parle de cette quête de l'immortalité. Ça me fatigue beaucoup quand la dimension plastique est effacée par la culture. Le sujet est intéressant, il est nourri.
Mais pour vous, elle n'a pas trouvé la forme ?
Elle n'a pas trouvé du tout la forme. Je m'ennuie en regardant cette forme. Et que vous dire de plus ? Que je m'ennuie. Voilà.
Est-ce que vous êtes ennuyé, Florian Guettet ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve que le sujet, déjà, est important. On est sur, effectivement, une sorte de vidéo atemporelle, mais parce qu'elle est atemporelle, elle est d'autant plus contemporaine. C'est-à-dire qu'elle est collée à une actualité, puis elle arrive à faire un petit pas de côté. Moi, je trouve quand même, elle arrive à poser une question qui est brûlante, quoi, qui est urgente. C'est-à-dire aujourd'hui, alors qu'on commence enfin à conscientiser que peut-être que l'humanité sera pas totalement éternelle, que peut-être que nous ou les générations juste d'après vont connaître la mort, qu'est-ce qu'on fait nos fantasmes d'immortalité qui sont pourtant chevillés au corps? Comment on concilie à la fois l'absence de perspective et ce désir tapis en nous de ne finalement jamais mourir? Donc je trouve que à sa manière, Laura Gosselin, en tout cas dans son film, elle formule une réponse. Alors effectivement, il y a des limites dans la mise en espace, parce que la galerie est toute petite et que ça ne sert pas forcément toute l'étendue du projet, c'est évident. Mais bon, je trouve qu'elle s'en est bien sortie pour l'espace qu'on lui donnait. Mais maintenant sur le film, effectivement, on a par exemple un univers post-humain qui ne va pas emprunter au futurisme, mais qui va aussi chercher sur son passé. On a une sorte de transhumanisme archaïque. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, elle dit aussi, finalement, d'un point de vue symbolique, cette science spéculative, quand elle est vraiment spéculative, quand elle se prend à son propre jeu des fantasmes qui la motivent, eh bien la science, elle est obscène, quoi. La science, c'est de la fiction, c'est de la religion, c'est du rituel, mais ce n'est plus un argument d'autorité. Donc cette obscénité là de la science, elle devient finalement une matrice à fantasmes. Moi, j'ai vu comme une sorte de film sur le fantasme, avec vraiment ces marqueurs plastiques, les voiles pour la danse des sept voiles, avec beaucoup d'érotisme aussi caché qui est pas montré, mais il y a de l'onanisme quand elle prend son shoot de momie. Elle mange, elle croque comme ça les membres des momies. Voilà, cette sorte de drogue de zombie qui devient aussi filtre magique. Enfin, il y a quelque chose qui vient déranger un peu les habitudes qu'on peut avoir sur vis-à-vis de la science, une science qui est en train de devenir folle avec ce fantasme là. Sarah en a rappelé quelques exemples, et puis qui en plus est matinée d'une sorte de rêve assez bourgeois, quoi, finalement, puisque c'est quand même aussi réinscrit dans une interprétation classiste. Effectivement, nous ne sommes pas égaux face à l'immortalité. Donc cette recherche-là, moi je la trouve intéressante et j'ai hâte de voir le reste.
Enfin, moi je préfère regarder ce magnifique film qui était avec jadis avec Catherine Deneuve et
David Bowie.
Et David Bowie, qui s'appelle Baos, parce que...
Non, Hunger. Les Prédateurs. Je ne sais pas quel est le titre français, le titre original.
C'est Les Prédateurs, voilà.
Enfin, le titre français, Prédateurs.
Avec la musique de Baos, du groupe Baos, c'est pour ça.
Il y a Pete Murphy qui ouvre. Et là, le God is Dead.
Mais moi, je trouve les images ennuyeuses, clichés, caricaturales, et trop, et se voulant se voulant trop, justement, trop expressive par rapport aux propos.
Oui, Sarah, vous allez avoir la parole pour une minute pour faire parler votre cœur.
Un mot ou un peu plus. Mais, c'est-à-dire que, non, je trouve que, au contraire, je trouve que les enjeux mobilisés par Laura Gauzlan sont parfaitement incarnés dans ses formes et dans cette installation immersive. Et notamment, son personnage, comme on en a déjà parlé, il peut incarner à la fois, comme je l'ai proposé en tout cas tout à l'heure, à la fois peut-être une classe sociale, voilà, qui promeut le changement et qui en fait persévère dans le temps, mais aussi son personnage qui est très intéressant, c'est qu'il est, il me semble, totalement transgressif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il déjoue des binarismes homme-femme, féminin-masculin, avec d'un côté un chemisier fluide et son rouge à lèvres, de l'autre ses cheveux décoiffés et sa cigarette à la bouche. Transgressif aussi parce qu'il côtoie le monstrueux et l'abject, avec c'est-à-dire la dégradation des corps et les déjections physiques, puisqu'il se défonce avec des vapeurs de momie à l'aide d'un urinal féminin. Il a également une chair flétrie. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec ce qu'on peut appeler une sorte de biopolitique de la salle de bain, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire qui passe par l'industrie de la cosmétique et qui participe, c'est-à-dire la salle de bain, la cosmétique, les cures anti-vieillissement, d'une construction sociale des corps et d'une assignation, des assignations de genre, qui est ici complètement déjouée par ce personnage, qui s'affranchit en fait de tous les diktats imposés aux femmes, notamment relatifs à la conservation de la jeunesse.
Allez voir par vous-même, allez à la galerie Valeria Straro, les expositions en galerie sont d'entrée libre, je le rappelle. Vous pouvez y aller, vous y serez toujours bien accueillis pour voir l'exposition de Laura Gauzlan. C'est au 16 rue Caffarelli dans le 3e arrondissement et c'est jusqu'au 12 octobre. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, David Danet, on va passer directement à la question du soir, vu l'heure qu'il est. Des invitations à gagner pour l'exposition de l'amour à partir du 8 octobre au Palais de la Découverte à Paris. Quelle est la question?
Quels sont les noms des deux galeries que l'on explore durant l'exposition de l'amour?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Une émission préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault, David Danet, prise de son ce soir, Laurie Vachon, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, dispute littérature, je serai avec Lucille Comeau, Elisabeth Philippe et Florent Georgesco. Nous parlerons de La Fabrique des Salauds de Chris Krauss, Girl d'Edna O'Brien. Il y aura un coup de cœur de Florent Georgesco pour La Croisade sur le Danube de Jehan de Vavrin et un journal de la dispute ouvert par Lucille Comeau.